Bonsoir, Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard. Alors le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. En 2024, on constate une augmentation de 11% des féminicides, 107 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, et 403 tentatives d'homicide. Au 21-10-2025, on dénombrait 131 féminicides depuis le début de l'année. Entre 2020 et 2023, les tentatives de féminicide ont considérablement augmenté, de 238 à 451. Les plaintes pour viol ou tentatives de viol ont augmenté de 104%. Les violences au sein du couple sont en hausse de près de 48%. Les violences sexuelles déclarées passent de 43 633 sur des mineurs et 33 460 sur des majeurs en 2020 à 71 085 sur des mineurs et 51 526 sur des majeurs en 2024. Et la région PACA est la plus touchée, le Var étant en tête de ce sinistre classement. On constate que de la Bible à Netflix, tous les arts, mythologie, peinture, théâtre, cinéma, chanson, ont mis en scène le massacre des femmes. Depuis l'Antiquité, les sociétés légitiment l'élimination des femmes, et ça continue aujourd'hui. Plusieurs lois sont censées protéger les femmes. Une loi cadre était annoncée pour octobre 2025. L'Assemblée nationale a voté, le Sénat pas encore. Les associations ne sont pas satisfaites de ce texte. Elles font des propositions en souhaitant que le Sénat s'empare de ces propositions. Une pétition en ce sens a obtenu plus de 100 000 signatures. Et une remarque qui m'énerve particulièrement, que l'on entend très souvent, elle n'avait qu'à le quitter, elle n'avait qu'à partir. Mais ce n'est pas si simple, et nous verrons avec mes invités que partir est très difficile. Donc mes invités, Sandra Mathieu, merci de vous présenter.
Merci, donc Sandra Mathieu, je suis enseignante en réseau d'aide aux enfants en difficulté. Je travaille avec une psychologue et un rééducateur. Et tout le temps qui m'est possible d'accorder à l'écriture, ben, je le fais.
D'accord. Et Muriel Dautin, donc, vous vous présentez aussi.
Bonsoir, je suis sculptrice à Grasse et je donne des cours et j'expose mes œuvres et je fais aussi partie du collectif Nous Toutes Grasse.
On en parlera en détail dans la troisième partie parce qu'il faut effectivement le présenter. Alors, vous, Muriel, en août 2019, votre fille Salomé a été battue à mort par son compagnon, mais ce n'était pas la première fois qu'elle subissait des violences de sa part. Et on sait que plus de la moitié des femmes avaient signalé des violences antérieures. Donc, malgré ce signalement, il y a aussi toutes celles qui ne signalent pas, d'ailleurs, hein, mais malgré le signalement, il se passe rien, et finalement, on va à l'extrême du désastre, je dirais. Donc, vous aviez... votre fille, vous en avez... On détaillera après, mais votre fille, vous en avez parlé ou pas?
Non.
Jamais. Mais on verra que vous étiez quand même rendu compte qu'il se passait quelque chose. Alors, vous rencontrez Sandra Mathieu, vous vous connaissiez, vous étiez amis?
On était amis, on a d'abord été voisines, ensuite on a été amis, et je suis allée voir donc Muriel après le décès de Salomé pour lui proposer d'écrire ce livre. Et c'est une proposition qu'elle a tout de suite acceptée.
Alors, vous aviez aussi été touchée par le meurtre de Lisa, votre cousine. Donc, en fait, ce projet de livre regroupe un peu les deux.
Alors, je parle un peu de Lisa, je parle beaucoup de Salomé. Ce livre, je l'ai dédié à toutes les femmes, pas seulement à Salomé et à Lisa. Mais c'est vrai qu'on part du personnel, de l'intime, de quelque chose qu'on connaît, à quelque chose de plus universel. Disons que le décès de Lisa... m'a renforcé, m'a donné encore plus d'énergie pour poursuivre ce projet alors qu'on avait dû l'arrêter.
Alors, quel est l'objectif de ce livre? Pour vous, Sandra, d'abord.
L'objectif est multiple. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en préambule, effectivement, on entend encore aujourd'hui un peu moins. Elle n'avait qu'à partir, mais pourquoi moi, la première baffe, je serais partie. Vous avez parlé de cette culture du féminicide, on a parlé de culture du viol, mais il y a aussi une culture du féminicide, où finalement le féminicide est même esthétisé, banalisé, c'est un ressort de la fiction, vous parliez d'une plateforme. Donc nous, on a voulu se battre contre cette idée que les femmes qui sont victimes de féminicide seraient éventuellement responsables et coupables, même.
Mais ça va plus loin même que ça, puisque c'est toute la société, en fait, qui, j'allais dire, tolère ce féminicide.
Bien sûr. Alors, là, vous avez parlé de culture de féminicide, et c'est le titre du livre qu'a sorti il y a peu Yvan Jablonka, qui est historien. Mmh. Mais, par ailleurs, bon, il y a beaucoup d'autres textes avant celui-ci. Il y a un texte de Christelle Tarot qui est sorti en 2022, il est assez conséquent, je crois qu'il fait plus de 900 pages. Là, elle parle dans ce livre très 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 intéressant, elle parle non seulement de culture du féminicide, mais d'histoire et de géographie, c'est-à-dire que c'est répandu depuis la nuit des temps et dans toutes les sociétés à travers le monde.
Alors, et pour vous, Muriel, l'objectif de ce livre ? Projet, je dirais plutôt, avant le livre. Il y avait un projet quand même.
Je ne voulais pas qu'on oublie Salomé. C'était ma première idée. Je ne voulais pas qu'on oublie Salomé. Je ne voulais pas qu'on oublie ce qu'on lui a fait. Et je voulais absolument que les gens comprennent ce que sont les féminicides, justement pour ne plus entendre cette phrase que vous avez dit, mais pourquoi elle ne quitte pas à la première gifle. Voilà. C'était important d'informer, de dénoncer, de sensibiliser là-dessus.
Alors, ce livre a quand même une particularité. Donc, comment vous avez conçu un petit peu ce livre dans l'idée, comment vous l'avez organisé, puisqu'en fait, c'est une conversation entre deux amis, conversation libre. On a l'impression qu'il n'y a pas de trame, qu'on prend le thé et puis on discute. C'est ce qui accroche d'ailleurs le lecteur. Mais, je veux dire, ce style de cette présentation, vous êtes venu comment ?
Alors, si le travail ne se voit pas, je dirais que le livre est réussi. Mais derrière, il y a effectivement beaucoup de travail pour que ça ait l'air d'une conversation absolument naturelle. J'avais prévu 70 pages, j'ai eu 4 ans donc, hein, pour l'élaborer. J'avais prévu 70 pages de questions. Et quand j'allais voir Muriel, j'avais un découpage. J'essayais de prévoir autant de questions que possible, mais parfois, évidemment, elle me parlait d'autre chose. Donc voilà, il fallait garder un naturel dans ce texte. Et puis, bien, une fois qu'il a été écrit, j'ai réorganisé des passages. Enfin, il y a un travail d'écriture assez conséquent sur la forme et sur le fond.
Et vous, cette forme de conversation entre amis, c'est ce qui vous allait bien ? C'est ce que vous avez...
Ah, ça m'allait parfaitement. Voilà. Moi, j'étais en confiance avec Sandra. Et ça me permettait de parler, comme je vous dis, en totale confiance. Mmh. C'est, puis ça a bien matché entre nous. Et je trouve que ce dialogue-là est très bien. Les lecteurs nous l'ont confirmé en nous disant qu'ils se sentaient avec nous et qu'il était prenant. Et ils n'arrivaient pas à le poser. Et il tournait les pages, et il tournait les pages. Combien de fois, Sandra, je ne sais pas si tu as eu les mêmes retours, mais je n'ai pas pu m'arrêter, je l'ai lu presque dans la nuit. Voilà.
Alors, vous avez commencé la rédaction, proprement dite, disons, après le procès, donc en 2024. Entre-temps, donc entre 2019 et 2024, vous êtes quand même déjà rencontrés, vous avez commencé à élaborer un peu, ou bien, ou pas ?
Non, pas vraiment, parce que donc il a fallu attendre le temps du procès. Mmh. Donc moi, je travaillais dans mon coin, et je crois que Muriel, elle avait aussi beaucoup de choses à vivre à travers cette procédure judiciaire qui s'est révélée être très très longue. Et puis elle est engagée par ailleurs dans des collectifs. Donc moi j'ai travaillé de mon côté et je suis retournée la voir quand ça a été possible en 2024, et on a enchaîné ce travail d'interview pendant, je dirais, 15 mois, pas tout à fait.
Et Muriel, vous dites à un moment dans le livre qu'en fait tout le travail que vous avez été obligée de faire avec l'avocate, c'est quelque part, ça vous a quand même un peu facilité ou aidé ou orienté,
oui,
sur le livre, pour le
bien
livre.
Bien sûr, dans les questions justement que Sandra me posait par rapport au meurtre de Salomé, ces questions qui touchent la justice, évidemment que du coup, ben, j'étais j'étais plus à même d'y répondre.
Oui, il y avait presque un accompagnement supplémentaire.
Voilà. Mais moi, je n'ai pas pu préparer ce livre comme Sandra, déjà parce que je ne suis pas écrivaine, c'est Sandra l'écrivaine. Et moi, j'avais, comme l'a dit Sandra, ce procès à préparer qui nous prenait énormément de temps. On était aussi une famille dévastée, détruite. Il fallait nous guérir.
Oui, mais ce travail permet aussi de faire un petit pas en avant, non ?
Ça m'a permis de travailler sur le deuil.
Tout en gardant une grande place pour Salomé avec vous.
Mais elle est tout le temps là, Salomé.
Ouais, tout le temps là, et le fait d'exprimer tout ce travail-là, ça, elle était encore plus présente.
Oh, oui, même avec Sandra, je crois.
Je cache pas le fait que j'ai écrit sous sa protection. J'avais besoin d'une photo qui était au-dessus de mon bureau. Et à chaque séance d'écriture, quand je réécoutais les enregistrements que j'avais effectués avec Muriel et que je les transcrivais, ou quand j'ai donné forme finale à ce livre, oui, je l'ai fait avec Salomé.
Oui, parce qu'en plus, il y a un temps entre le moment où vous avez dit « bon, maintenant, j'ai suffisamment de matière » et le moment où le livre sort, il y a tout un travail encore, en plus, sur le livre.
Ah oui, effectivement. Je crois que j'ai dû terminer ce livre en décembre ou peut-être en janvier. Le 10 janvier, je crois que je l'ai noté à la fin du livre. Et ensuite, il a fallu le proposer aux éditeurs, puisqu'on a deux éditeurs chez Télémaque. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que je négocie avec eux, en quelque sorte, dans des conversations téléphoniques. Je ne suis pas montée à Paris, donc on était tous les trois en ligne et on faisait une sorte de négociation sur ce qu'on garde et ce qu'on laisse. C'était un petit peu douloureux, c'est toujours douloureux pour un auteur de supprimer des pages. Mais l'idée, c'était d'arriver à plus de concision et peut-être de faire un livre plus populaire et plus accessible. Et j'ai rien contre, finalement.
D'accord. Alors, nous nous retrouvons après une pause musicale.
Accord à Côte d'Azur.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage. Je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. C'est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. I'm
Michel Murator. Nous nous retrouvons pour un alter regard avec Sandra Mathieu et Muriel Dota. Alors, je peux vous demander pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Alors, d'une part, parce que j'adore cette chanteuse Clara Isée, et notamment cette chanson douce. Je pourrais dire exactement la même chose que ce qu'elle dit.
C'est votre état d'esprit, quoi.
Complètement. Et la première fois que j'ai entendu ces paroles-là, j'étais vraiment troublée.
Et Sandra, pour vous, ce morceau ?
Mais ce morceau, il figure dans le livre. Alors, je ne sais plus dans quel entretien. Je ne connais pas mon livre par cœur. mais à la fin d'un entretien, et effectivement, Muriel a proposé qu'on écoute ce morceau parce que, comme elle vient de l'expliquer, ça... C'est révélateur de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense. Et c'est vrai qu'on parle régulièrement de pardon, d'un pardon flamboyant qui serait réparateur, libérateur. Et parfois, c'est pas possible. Et parfois, il y a de l'impardonnable. Je me souviens d'une phrase d'un rescapé de la Shoah qui dit « Si vous léchiez mon cœur, vous seriez empoisonné ». Je crois que c'est un peu l'idée.
Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, oui. Parce que souvent on me parle de ce fameux pardon, mais oui, il y a des choses impardonnables, on ne peut pas.
Oui, mais il faut assumer, il n'y a pas de raison, on ne peut pas demander aux gens de... Voilà. Alors, là, je voudrais revenir, donc Sandra, c'est son compagnon donc, qui l'a battu à mort, quoi qu'il faut le dire, parce qu'il y a des féminicides... Peut-être moins sévère, enfin, je ne sais pas, dit, je sais pas si on peut dire ça.
Non, en
mais
fait.
Là, et en plus, il y a une souffrance.
Mais souvent, terrible. Le féminicide, ce n'est pas un coup porté par colère et que le coup donne la mort. Le féminicide, c'est justement pas ça. Le féminicide, c'est un anéantissement de la femme. Souvent, alors que la mort est donnée, on voit aussi, il a brûlé le corps ou il l'a massacré jusqu'à ce que. La femme, la jeune femme, ne soit plus soit méconnaissable. Donc il y a vraiment le féminicide, c'est vraiment un anéantissement de la femme.
Oui, c'est un peu ce que je disais dans la présentation. Depuis l'Antiquité, il faut que la femme disparaisse, quoi. On l'a
donc... Mais spécialement le féminicide, je tiens à préciser, c'est vraiment un anéantissement. Ce n'est pas l'homme a tué la femme. Dans une dispute, ce n'est pas que ça. Ça va jusqu'à la massacrer, lui enlever son visage, la brûler, qu'il n'y ait plus rien. Un effacement.
Alors, vous avez vu votre fille changer.
Oui.
Elle s'est éloignée de vous. Est-ce que vous pouvez donc... dans le temps, est-ce qu'on voit la progression? Est-ce que... Comment vous situez ça?
Ça s'est passé assez vite puisqu'il a mis 9 mois à la tuer. Et donc tout est allé très très vite. Salomé a arrêté ses études. Elle avait pris donc du coup un petit travail. Elle a même arrêté son travail. Elle a changé de tenue vestimentaire. Elle mettait des habits qui cachaient son corps. Elle s'est éloignée de ses amis I et de ses amis IE, de sa famille, de moi, on était très très proches, mais c'est lui qui a installé tout ça, qui a fait que Salomé en est arrivé à ce point-là. Il a compris que la première personne qu'il fallait éloigner de Salomé, c'était sa mère, parce qu'il avait compris qu'il y avait un rapport très très fort entre elle et moi.
Et ça a été progressif, tout ça, vous dites sur 9 mois, bon quand même. Donc dès qu'elle a été avec lui, en fait, elle a changé.
Oui, c'est allé très vite.
C'est ça.
Oui.
Donc cette emprise, puisqu'on parle quand même d'emprise, a été très rapide.
Elle
en
a
fait.
Été très, très, très violente.
Rapide, très, oui. Très violente et très rapide.
Oui.
Parce qu'on imagine qu'il y a les premiers temps, tout va bien, quoi. Puis après, petit à petit, ça se détériore, mais là, ça allait très vite.
Oui. Oui,
ça allait très vite. Et vous n'aviez pas d'affinité avec lui, disons, pour essayer de voir.
Alors, j'ai pas eu vraiment le temps de le connaître. Je l'ai invité à la maison, malgré tout, pour faire sa connaissance. Un soir, il a dîné à la maison, comme je l'explique dans le livre. Et non, j'ai ressenti quelqu'un de... J'ai ressenti une très mauvaise personne. Juste le temps d'un dîner. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait une très très mauvaise impression, oui, effectivement.
Et dans ce dîner-là, ses relations avec Salomé, parce que là vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà?
Oui, elle était. Je la sentais aux aguets, je la sentais mal à l'aise, je la sentais très à l'écoute de ce que lui disait et de ce qu'il fallait qu'elle fasse quand il parlait. Elle n'était pas la Salomé que je connaissais, pleine de vie, assurée dans sa position de jeune femme. Non, elle était... Elle était soumise. C'est un début de soumission que j'ai senti.
Et vous avez senti aussi qu'elle n'était pas heureuse, finalement. Parce que, bon, on peut dire qu'elle est soumise, mais pas trop malheureuse. Mais là, vous avez senti qu'elle n'était pas heureuse. Une mère, ça sent ça, quand même, quand il y a un souci.
C'était compliqué. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas eu le temps de comprendre tout ce que vous voulez.
Oui, du coup, vous la voyez beaucoup moins.
Ah, mais il l'a mis à l'écart de sa famille très très vite et de ses amis très très vite. Et puis moi, je n'ai pas vu Salomé 3 mois avant sa mort. Je ne la voyais plus déjà.
Oui,
c'était compliqué d'entretenir le lien parce que lui casser ses moyens de communication, tel un téléphone, un ordinateur, et je savais qu'il lisait les messages. Donc c'était très très compliqué d'avoir un lien avec Salomé.
Alors, dans ce cas-là, bon, du coup, il y avait effectivement une coupure, disons, entre elle et vous, mais on dit que comment l'entourage est désemparé, qu'on ne sait pas quoi faire, comment aider.
Oui, comment aider? Alors, il faut se rappeler qu'on est en 2019 aussi, c'est important parce que depuis, la parole s'est bien libérée et on informe de plus en plus sur ce qu'est l'emprise et on sensibilise de plus en plus, et heureusement.
Donc, vous êtes allé vous renseigner quand même pour voir comment vous pouviez l'aider?
Oui, voilà. Alors, je suis allée me renseigner au palais de justice, au bureau d'aide aux victimes, et j'ai expliqué tous ces points qui n'étaient pas normaux, comme elle arrête ses études, elle arrête son travail, elle change de tenue vestimentaire, elle ne voit plus ses amis, elle ne voit plus sa famille. Tout ça, ce n'est pas normal pour une jeune fille de 20 ans. Ce n'est pas normal. Et on m'a répondu, mais quel âge a votre fille? Donc j'ai dit, elle a 20 ans. Et la personne m'a dit, mais votre fille est majeure. Donc je suis ressortie avec rien, aucune solution. Je fais quoi? J'attends. J'attends que ma fille finisse cette histoire avec ce garçon-là.
Et en fait, si les voisins, parce qu'on parle beaucoup des voisins aussi, on dit qu'ils ne sont pas intervenus, ils ont entendu crier, ils ont entendu qu'il se passait des choses pas claires. Et c'est pareil, ils ont comment intervenir pour. C'est très compliqué aussi.
En l'occurrence, il y avait des témoins oculaires, ils sont intervenus. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à l'emprise et par rapport au rôle de la famille. C'est vrai, on demande à la famille, mais comment as-tu pu, comment as-tu vu c'est donc, on parle de culture du féminicide, c'est la société qui doit changer de regard sur ses victimes, pouvoir les écouter. C'est les hommes qui doivent changer. On parle d'éducation, de gestion de la frustration, d'accès à l'égalité. C'est tout ça qui doit changer. C'est que une femme, quand elle va à la police pour porter plainte, elle soit écoutée et que sa plainte soit suivie des faits. C'est tout ça qui doit faire, qui doit être engagé.
Et surtout que sa plainte ne soit pas classée sans suite, parce que c'est souvent ce qui se produit et reproduit et reproduit. On en a la preuve quasi tous les jours. Puisque je rappelle qu'en France, tous les 2 jours et demi, il y a un féminicide.
Et oui, et le commissariat, la police n'est pas formée pour accueillir ces plaintes-là et y répondre de façon, j'allais dire, humaine.
Alors, non seulement la police est peu formée pour recevoir des plaintes, mais on sait aussi que parmi les policiers, parfois, il y a aussi des abuseurs. Donc, c'est difficile d'être entendu quand on est une femme et qu'on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas le problème. Ou qui n'est pas empathique.
Oui, parce qu'à un moment, quand même, on disait qu'on allait les former, justement, à l'écoute pour pouvoir protéger.
Alors oui, oui, il y a des formations, et tant mieux, mais ça reste pas assez. Et puis, c'est sur du volontariat. Donc, s'ils ne veulent pas se former, ils ne se forment pas.
Et malheureusement, avec ce phénomène d'emprise, on sait aussi que les femmes vont plusieurs fois à la police, qu'elles font des allers-retours. Chez certaines victimes, on a retrouvé parfois des classeurs avec 28 dépôts de plaintes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'aller 28 fois à la police pour dénoncer quelque chose d'aussi dur ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? C'est à la police, à la justice de faire son travail ensuite, non ?
C'est pour ça qu'on verra dans la troisième partie qu'il y a des associations qui accompagnent, qui aident les femmes, parce que justement la police ne fait pas son travail.
Alors le problème des associations, elles sont magnifiques, elles font un travail considérable. Ces derniers temps, et notamment à cause des changements ministériels, de cette instabilité gouvernementale, les associations ont perçu quasiment 20% d'aide en moins. Donc comment peuvent-elles agir sans argent ? Elles font un travail considérable, avant, pendant, après. Elles suivent parfois les familles au procès, ça a été le cas de Muriel. Sans argent, elles ne peuvent pas agir. Donc l'État se désengage complètement de ce qu'il estimait être une priorité.
Il y a plein d'associations qui ferment leurs portes.
Ouais, on garde la troisième partie vraiment pour informer bien les auditeurs, puisqu'un des objectifs, c'est quand même d'informer, de donner des billes pour pouvoir réagir. Mais je voulais revenir quand même sur l'entourage. Donc, la famille, ça doit être terrible de se rendre compte qu'on ne peut pas aider sa fille.
Oui, vous êtes complètement désarmé.
Il y a un sentiment très fort de culpabilité. On en parle toutes les deux dans le texte. Je demande bêtement, parce que parfois on pose des questions idiotes. C'est difficile d'aborder ce sujet avec une maman. Ça demande de prendre des gants, ça demande un peu d'élégance, ça demande de la pudeur et de la sensibilité. Je lui dis, tu n'éprouves pas de culpabilité. C'est vraiment une question idiote, évidemment, évidemment. Mais est-ce que Muriel doit se sentir responsable et coupable ? Encore une fois, certainement pas.
Ben non. Non, surtout que c'était dénoncé plusieurs fois, c'est ça quoi, qui ne va pas. Alors, on a une deuxième pause musicale.
Accor à Côte d'Azur.
Salomé dort, elle est protégée par la Yémangère. Quand Salomé rêve, on dirait qu'elle entend des bossa nova. Ses yeux noyés de terre de ciel et de berceuses vénitiennes. Ses yeux de sable. Des yeux de fado nostalgique. Quand Salomé chante, elle a les anses d'une habanera. Quand Salomé pense, on dirait bien qu'elle ne reviendra pas du pays au cou des gazelles. Les animaux de l'autre bord. Ses yeux de nuit, mais que voit-elle ? Ses yeux de nuit, mais d'où vient-elle ? 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 quand Salomé sort, je ne demande jamais où elle va. Quand Salomé rentre, elle dit ce que je cherche n'existe pas. Des guerriers la suivent en silence. Des hommes venus de l'autre bord. Grand, immobile et à distance. Grand et debout jusqu'à la mort.
Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard avec Sandra Mathieu et Muriel Dota. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette chanson? Bon, Salomé, on imagine, mais quand même, elle est pour vous.
Justement, parce que Salomé, parce que le prénom, il est dit je ne sais pas combien de fois dans la chanson et que ça fait un bien fou d'entendre ce prénom répété. Moi, ça me fait un bien fou parce que je ne l'entends presque plus. Et la deuxième raison, c'est que c'est une magnifique chanson et j'ai l'impression que Bernard Lavilliers l'a écrit pour ma Salomé à moi. C'est vraiment ma Salomé. Les yeux, quand il décrit son physique, quand il dit cette phrase, quand elle revient, elle me dit « ce que je cherche n'existe pas », c'est vraiment, vraiment Salomé. Voilà. Ah oui.
Moi, j'avais envie aussi de l'écouter avec Muriel parce que dans le livre, on en parle. Il y a quelque chose de très, très touchant que Muriel m'a expliqué. C'est que tous les matins, depuis le décès de Salomé, la maman de Muriel écoute ce morceau de musique. Et je trouvais que c'était du coup important d'en parler dans le livre et puis de l'écouter aujourd'hui.
Oui, c'est bien, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Alors, dans le livre, vous dites que votre relation à l'autre et à l'humanité a changé. Donc, vous pouvez expliquer, en fait, comment vous, ça se caractérise, comment vous ressentez ça?
En fait, quand vous vivez la mort d'un enfant, c'est violent. Certes, il n'y a pas de moins bonne ou bonne mort pour un enfant. C'est pas ça que je veux dire, mais être la maman d'une jeune femme de 21 ans victime de féminicide, vous rend la tâche de continuer d'aimer l'humanité difficile et compliquée. Aujourd'hui, c'est pas facile pour moi d'embrasser l'humanité. Certes, donc j'ai un rapport à l'humanité qui n'est pas facile encore aujourd'hui. Et en même temps, je pourrais dire que Salomé m'a rendue plus belle parce que j'accepte aussi plus facilement les errances de cette humanité. En fait, c'est un mélange des deux. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Donc, entre ce que nous dit Muriel et là, et ce que vous avez dit précédemment, il y a bien une responsabilité de la société de laisser faire, j'allais dire, de laisser se développer des féminicides comme ça.
Oui, il y a une responsabilité de la société qui laisse faire, qui ne punit pas, qui n'éduque pas suffisamment. Mais quand même, il y a une responsabilité à la base de la personne qui a commis ce crime ou cet assassinat, puisque parfois il y a des préméditations. Les vrais responsables, ce sont les auteurs de ces crimes. Quand on lit le portrait d'expertise psychiatrique de X dans l'ordonnance de mise en accusation, on voit quand même que ce sont des hommes qui sont narcissiques, mégalomanes, parfois qui sont mythomanes, qui sont dans l'impossibilité d'éprouver de l'empathie. Donc les vrais responsables, ce sont eux, la société, eux, oui.
Ils sont, excusez-moi, dans leur toute puissance d'homme aussi, puisqu'on on évolue dans une société qui est quand même faite par les hommes, pour les hommes, et qui n'a jamais vraiment laissé la place aux femmes d'exister. Il faudrait peut-être changer tout ça et avoir un regard autre que celui-là.
Alors justement, ça nous renvoie, donc, en 2014, la France a ratifié la Convention européenne sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques, qu'on appelle la Convention d'Istanbul. Alors 10 ans après, la France n'est pas au top du top, hein, puisqu'il y a cette fameuse loi qui n'est toujours pas sortie et qui ne satisfait pas les associations. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui se désengagent de cette convention qu'avait signée. Là, le dernier, c'est la Lettonie qui avait signé la convention et qui se désengage. Donc en fait, nous, on est en France, on est confronté à ces problématiques-là, mais c'est aussi un état d'esprit un peu plus général.
On a dit que c'était un phénomène qui était mondial, et vous parliez d'antiquité. En France, on pourrait s'attendre à quelque chose de quand même un peu plus significatif. Il y a une hausse des féminicides, c'est le pays des droits de l'homme. Donc l'homme avec un petit H, oui, c'est ce que disait Muriel.
Et donc, dans cette convention, toutes les associations, il y a eu un rapport d'évaluation et les associations dénoncent le non-respect, ne serait-ce que des termes de la convention qui est censée protéger.
Et puis, il y a une baisse des moyens significatifs. Il y a une baisse de 20% des budgets qui sont alloués à cette association. Donc, après, c'est complètement difficile de faire un travail efficace. Au niveau de l'éducation nationale, il y a aussi un retrait des budgets. Il y a une baisse des moyens, même si on a créé les EVARS. Il faut quand même le signaler. Mais
vous pouvez expliquer ?
Oui, ce sont des modules de formation qui ont lieu dès le primaire, à la vie affective, relationnel et sexuel. Ça éclaire notamment les élèves dès le cycle 3, je dirais, sur ce qu'est le consentement.
Donc, alors ça, ça a été très très dénoncé d'ailleurs par certains politiques, en disant qu'on commençait dès la maternelle. Mais effectivement, il faut commencer dès la maternelle, ce respect, à éduquer au respect de la femme.
Complètement, et le faire avec des mots adaptés pour tel âge et s'adapter après à l'âge supérieur, au collège et au lycée. Mais oui, on peut parler de tout ça à des enfants, bien sûr.
Au respect de la femme et de l'enfant, hein, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abusés. On en parle de plus en plus, parfois dans le cadre, et souvent dans le cadre de la famille. Donc, c'est absolument important que dès la maternelle, les enfants soient sensibles à ce genre de sujet et que ça reste pas dans l'ombre, qu'on leur donne les clés pour savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.
Voilà, et qu'ils soient sensibilisés aussi à cette égalité entre hommes et femmes, à cette égalité entre petits garçons et petites filles.
Aussi, oui.
Quand des femmes sont tuées, quand elles sont sauvagement tuées, parfois les enfants sont témoins.
Oui.
Voilà pourquoi les associations qui décomptent ou les collectifs qui décomptent le nombre de victimes ont proposé aussi dans ce comptage de faire figurer tous ces enfants qui deviennent orphelins de père ou de mère, ou parfois des deux. Parce que la société semble plus sensible finalement au sort des enfants qu'au sort de ces femmes. Moi, j'ai déjà entendu dire, hein, oui, les femmes, alors les enfants, souvent les femmes restent avec leurs compagnons pour protéger les enfants, ou parfois l'image du père.
Et oui, c'est surtout ça, c'est que pour l'enfant, il est il est public, disons, de tous ces problèmes-là. Alors, moi, j'ai envie de dire là maintenant, et après, et maintenant, parce que je sais que vous vous mobilisez beaucoup dans la rue, dans les écoles, donc vous pouvez présenter vos actions. Grasse est une ville un peu pilote, je dirais, pour
oui,
tout ça.
Oui, et j'en suis fière d'ailleurs. Mmh. Et moi, j'ai adhéré au collectif Nous Toutes pour justement informer, dénoncer et sensibiliser sur ces violences-là. Et avec le collectif Nous Toutes Grasse, on organise tout un mois de novembre sur cette lutte-là. Nous avons mis en place des panneaux sur la place du Clavecin à Grasse, expliquant ce qu'est l'emprise, ce que sont les féminicides. On a mis des, je crois, 23 silhouettes dans Grasse qui dénoncent ces violences-là par des phrases choc, mais qui ont l'effet justement de dénoncer et sensibiliser. On a installé 8 silhouettes sur le cours, dont chaque silhouette représente une année de féminicide en France. Et nous organisons aussi un ciné-débat au cinéma de Grasse.
Des cours de self-défense.
Voilà.
Oui, c'est important.
Et nous serons tous les samedis la journée sur le cours, tout le long de ce mois de novembre, avec notre stand sur lequel il y a plein d'informations, des violentomètres, pour sensibiliser sur ce fléau.
Mais là, ça, c'est une fois par an. Or, il y a quand même nécessité, j'allais dire, d'action plus au quotidien. Donc, vous intervenez aussi de façon tout le reste de l'année, quoi.
Oui, enfin, quand même, je voudrais quand même dire que le collectif de Muriel, Nous Toutes, ils ont quand même fait un travail impressionnant, non pas seulement une journée, mais pendant tout un mois. Et leur travail, on a pu le partager sur les réseaux sociaux. Et je crois que une des vidéos de Nous Toutes collecte déjà 65 000 likes, ou peut-être encore plus. Ce sont des vidéos qui sont partagées. On a beaucoup de réactions. Alors, on a parfois des réactions un peu bizarres. Quelqu'un m'envoyait un message en me demandant est-ce qu'au moins ces femmes-là qui mettent des choses, des panneaux, des silhouettes, elles payent un droit au domaine public de la ville. Voilà. On a aussi ce genre de réaction, malheureusement.
Oui. Et c'est moi, ça m'a choqué quand Sandra m'a fait part de cette réflexion. Je trouve ça moche, très très moche.
Alors, j'ai pas le temps de faire de pédagogie sur les réseaux sociaux. Donc, généralement, ça m'a obligé, quand j'ai partagé la vidéo de Nous Toutes Grâce 06, ça m'a obligé à regarder très, très régulièrement les commentaires pour pouvoir réagir. Mais j'ai supprimé pas mal de commentaires de cet ordre. Dans l'ensemble, il y a des réactions très, très positives. Ça a été vu énormément de fois. Donc, partagé, commenté. Et le travail, finalement, il se fait aussi bien sur la place du cours et à Grâce dans la rue que sur les réseaux sociaux. Alors, en plus de ce travail, effectivement, on va aller dans les établissements scolaires avec Muriel. On va aller, puisqu'on est grassoise, et dans un premier temps, Muriel est déjà allée à Sifour les plages pour une conférence, mais là, on avait l'intention d'intervenir dans des collèges et dans des lycées. On va intervenir prochainement au collège Canteperdry, au collège Saint-Hilaire et probablement au lycée Tocqueville.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge, on parlait de la maternelle, mais pour que les enfants soient plus sensibilisés, finalement, quel est le bon moment, j'allais dire?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de moment, je pense que commencer à la maternelle, malheureusement, je dirais, on a parlé du rôle positif des réseaux sociaux, la problématique, c'est que les enfants s'éduquent aussi avec les réseaux sociaux, avec TikTok, plein de contenus qui sont masculinistes et vraiment délétères pour les femmes, pour le droit des femmes, et ça, c'est encore une fois à l'État de contrer cette influence des réseaux sociaux.
Oui, pour réguler tout ce qui se dit, ben, toutes les réactions qu'on voit. Mais le réseau social peut servir, j'allais dire, d'information aussi, parce que quand vous mettez une vie de quelque chose, effectivement, ça... Bon, après, tout le monde n'est pas sensible, mais quand même, il y a quand même un impact important.
Oui, ben on disait qu'on avait été très surprise, favorablement surprise, par l'impact qu'avaient eu les réels et les vidéos faites par nos toutes grâces.
Alors, les associations, je sais qu'il y a des associations, parce que à quel moment intervenir, voilà, donc pour éviter, donc sensibiliser effectivement sur tout ça, mais il y a des associations qui accompagnent, je sais qu'il y a des associations qui aident la femme à partir, puisqu'ils aident au déménagement, à trouver un logement. Donc ça, c'est des contacts à donner. Vous avez des informations là-dessus?
Bien, là, il y a l'association Une Voix pour Elle.
Qui intervient sur tout le département, qui intervient où?
Oui, qui fait un travail gigantesque.
Ah, voilà, oui, travail pratique, un travail pragmatique d'accompagnement des victimes au moment où elles doivent partir.
Si elles arrivent à partir, c'est là qu'il faut les aider.
Absolument, en préparant une valise d'urgence.
En les relogeant.
Oui, aussi.
En les aidant concrètement au déménagement, avec des déménageurs qui sont payés par l'association.
Oui, en leur fournissant des nouveaux meubles, parce que des fois, elles partent avec une valise et puis des enfants. Donc, elles arrivent dans des appartements où il n'y a rien. Donc il faut aussi leur fournir, elles fournissent, donc cette association fournit les meubles, tout ce qu'il y a...
Les produits d'hygiène
voilà,
aussi.
Pour les enfants aussi. Enfin, je remercie beaucoup cette association.
Donc on a cité Une Voix pour Elle, mais il y en a d'autres.
Oui, mais on a pensé aussi, on en fait une liste à la fin du livre avec le 3919, qui est Violence Femmes Info, et qui peut accompagner aussi les victimes.
Comment ça se passe? Je téléphone au 3919. Concrètement, j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « Ah oui, c'est bien triste, c'est dommage ». Non,
non, c'est pas l'objet, c'est pas SOS Amitié.
Il se passe quand même quelque
mais
chose.
Ils font quand même ils ont quand même, on l'a fait, enfin moi je l'ai fait pour le tester. Il y a un rôle d'accompagnement, il y a des conseils qui sont donnés. Peut-être que le 3919 va pouvoir vous orienter vers Une Voix pour Elle, par exemple, ou l'association Arpège, ou d'autres associations locales ou nationales pour accompagner les victimes. Je crois que c'est le rôle du 3919.
D'accord, donc c'est quand même important.
Ah bah absolument, hein, c'est un numéro qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24. J'espère qu'il est... j'ai pas récemment eu besoin de faire appel au 3919, mais il est censé être efficace. Après, il faut qu'il y ait des bénévoles pour assurer... C'est toujours pas pareil.
C'est les moyens. C'est les moyens qui manquent. On rappelle le livre. Elle s'appelle Salomé, Sandra Mathieu et Muriel Dota.
Merci.
Merci.
Au revoir.